13h-14h, les courses RMC.
PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker. PMU.
Les courses RMC, Sébastien Darras.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis. On est en direct jusqu'à 14h. Les courses à Vincennes tout au long de ce week-end. Et oui, cette saison est en plein meeting hivernal. Et ça y est, ça se rapproche. Ça commence à sentir l'Amérique avec des épreuves qualificatives le week-end dernier. On va revenir dessus. Une des 4 B préparatoires qui se tiendra demain sur le plateau de Gravel. On va vous expliquer tout ça. Si vous ne connaissez pas les courses, restez avec nous. Cédric Hietta est à Vincennes en direct. Salut Cédric.
Bonjour à tous. Oui, effectivement.
Salut, tout baigne.
Impeccable.
Pour les conditions
d'activité, un petit 2-3 chevaux sur la piste. Les conditions sont un peu frais, hein, avec un temps assez couvert, mais une piste en parfait état.
Piste en parfait état, et c'est important. J'imagine les tribunes pleines comme un œuf. Non, je rigole. Julien Cellier, le Parisien, aujourd'hui en France, est là.
Salut,
avec
Seb,
moi.
Salut à tous.
Ça va, Julien? Tout baigne.
Impeccable.
Frédéric Kita de Zone Turf.
Bonjour, Sébastien. Bonjour à tous.
Est là, également.
De retour.
De retour, effectivement, à notre micro. Alexis Lévy, de la chaîne du cheval. Et Kidia, fidèle au poste. Salut, Alex.
Ça va, la forme?
Bah,
salut,
ça va. Ça va?
Nickel.
Lionel et Brahim sont, je crois, à la recherche du Père Noël. Ils sont quelque part dans le Nord. Il paraît qu'ils ont échangé le traîneau pour un sulky. Ils seront là, bien évidemment, la semaine prochaine. On vous attend au 32-16 pour jouer au tuyau du parieur. Les courses RMC, c'est parti.
Le paddock des courses RMC.
Kézako, le paddock, qu'est-ce que c'est? L'endroit où les chevaux se détendent, se roulent dans le sable, comme les journalistes du Parisien, d'ailleurs. On va commencer, voilà, les petites infos, peut-être vos coups de gueule, hippiques. On va commencer par Alexis Lévy.
Eh ben, écoute, moi, je voudrais revenir sur le dernier dimanche. On va avoir, je l'espère, un très grand dimanche demain de sport. On a eu un très grand dimanche de sport, je trouve, la semaine dernière, le 23 décembre, avec 3 épreuves de groupe, dont 2 groupes 1. Mm-hmm. Que ce soit Fado Duchesne, la lutte avec Philippe Cash, la montre fabuleuse de Paul Ploquin, que ça soit la victoire de Looking Superb, Jean-Michel Bazir, qui qualifie un cheval qui a pas 150 000 euros pour le prix d'Amérique.
Et avec la manière, hein. Impressionnant. Hein.
Avec la manière, que ça soit la victoire d'Eridan, qui sera pas une première chance dans le prix d'Amérique, dans le critère continental, mais moi sur Equidia on a eu des images de joie, mais d'une joie intense, d'une joie hallucinante même de Sébastien Devulf, le fils du propriétaire qui est copropriétaire du cheval. Enfin, on a vécu de très très grands moments de sport. Ça c'était le côté positif. La face obscure de la force dimanche dernier, je trouve qu'on a eu deux décisions de commissaires que j'ai trouvé personnellement très sévères. Je ne sais pas si je suis le seul, en tout cas dimanche dernier, j'avais pas l'impression d'être le seul. Que ce soit pour le poulain entraîné par Timo Nurmos qui a fait l'arrivée le cheval entraîné par Timo Nurmos qui a fait l'arrivée du prix ténor de Beaune.
Ouais, qui est deuxième,
pour le poulain de Cédric Mégissier, Foxtrot-Si. On a eu des décisions que je trouve difficilement compréhensibles, que j'ai trouvé extrêmement sévères et qui ont, à mon sens, était dans le sens inverse de ce que doit être le spectacle des courses. Je trouve qu'on a pris de très bonnes décisions en assouplissant un petit peu les règles pour disqualifier les chevaux dans les allures. On a pris de bonnes décisions sur les piquets, tout ça. Ça va dans le bon sens. Je trouve qu'on a bien structuré les règlements pour que le sport soit plus compréhensible et plus lisible. Maintenant, il reste, parce que c'est pas le premier dimanche, c'est pas le premier jour du meeting où on a des décisions controversées, il reste à réussir à avoir une linéarité, une régularité plus grande, je trouve, dans la sévérité avec laquelle le règlement est appliqué.
C'est ça qui est très difficile à comprendre pour les turfistes et tous les observateurs, c'est que les décisions qui sont prises peuvent varier d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre en fonction des personnes qui officient. Et ça, c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'il y aurait une doctrine à laquelle tout le monde se tiendrait. Bon, on est d'accord ou pas avec la doctrine, mais voilà, elle s'applique. Là, le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des interprétations différentes selon les commissaires.
Malheureusement, c'est tous les sports.
Hein. Ouais, non, mais c'est tous les sports.
Ouais, mais là, au niveau de la doctrine, excuse-moi Cédric, mais au niveau de la doctrine, je crois qu'on a fait des progrès. On a dans les règlements récemment,
c'est vrai,
soit assoupli,
soit simplifié, également.
Simplifié et donné davantage de précision pour enlever du pouvoir d'interprétation justement aux commissaires. Encore une fois, les commissaires, moi, très souvent, j'aimerais pas être à leur place et je leur tire pas du tout à boulet rouge dessus. Je dis juste qu'il faut... Alors, peut-être qu'une des pistes, ça serait un peu ce qui a été fait avec l'arbitrage, une sorte de professionnalisation du corps des commissaires qui aurait une commission au-dessus d'eux qui les jugerait, qui les sanctionnerait en cas d'erreur, en cas de faute, qui voilà quoi. Et, ça a été fait dans le foot, ça pourrait être fait dans les courses.
Et les commissaires qui n'ont aucun intérêt sur la piste.
Ouais, juste une chose, messieurs, pour essayer, enfin, quand même, il y a des personnes qui nous écoutent et qui parfois ne sont pas au fait de tout ça. On rappelle qu'on parle de trot. Au trot, il y a des allures. Il faut respecter ces allures. Et il y a des règles qui sont très strictes, très précises. Le nombre de foulées dans une allure différente que celle du trot régulier, voilà, qui peuvent amener les chevaux à être disqualifiés. Et là, on est en train d'évoquer les décisions qui peuvent être un peu parfois différentes d'un commissaire à l'autre, comme ça peut l'être dans le sport en général. Tu as dit quelque chose de très important, Alex. Tu as parlé de l'image que doivent être les courses. Moi, je voudrais revenir juste la semaine dernière, tu l'as dit, c'était un très beau dimanche, sur cette histoire de qualification continentale et le ténor de Beaune. Moi, j'appelle ça un fiasco, je suis navré. On en a parlé d'ailleurs dans les courses RMC samedi, on n'était pas d'accord avec Romain. Romain me disait non.
Ah, mais il y a un règlement qui est très clair.
Voilà, il me disait c'est ils sont prioritaires. Moi, je disais, mais non, je crois que ça a changé. Maintenant, ils sont qualifiés d'office, c'est une wild card.
Bien sûr. Et
dimanche après-midi à Vincennes, on a l'impression que dans les instances, on avait deux sons de cloche. Non, ils sont qualifiés. Non, ils sont pas qualifiés, c'est prioritaire. Pour finalement nous dire à la fin qu'ils étaient qualifiés. Le vainqueur avait d'ailleurs un panneau qualifié. Moi, j'appelle ça un fiasco parce que au niveau de l'image, on a besoin de simplifier notre sport. On a besoin de l'expliquer à tout le monde, de le rendre facile d'accès. Et là, en l'occurrence, ce sont des erreurs qui sont faciles à éviter.
Ouais, c'est looking superbe. En gros, il y a ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que dans les conditions du Prix d'Amérique, il y a un niveau de gain minimum à atteindre par tranche d'âge. Les 5 et 6 ans doivent avoir un minimum de gain. Ce cheval, Looking Superbe, entraîné et bridé par Jean-Michel Bazire, n'avait pas ces gains-là. Mais il est spécifié en plus dans les conditions du Prix d'Amérique que le gagnant du Prix Ténor de Beaune sera qualifié d'office, quels que soient ses gains. Donc cette condition prend le pas sur l'autre condition.
A priori,
et c'est
2013,
pourtant très clair, c'est écrit noir sur blanc. Moi, je comprends pas qu'il y ait une...
Mais quand on regarde les conditions, c'est pas qualifié d'office, c'est priorité accordée, quel que soit leur gain. Ce qui est une façon de rédiger le règlement assez surprenante, qui laisse place à l'interprétation. Mais ce qui est le plus hallucinant, c'est qu'il y ait quand même un élu du trot qui, une fois le poteau franchi, a quand même dit que le cheval n'était pas qualifié tant qu'il n'avait pas les gains.
Et qu'il fallait
gagner. Enfin, sur Equidia, on a eu vent de ça. Et sur Equidia, on a dit si, on peut vous assurer que le cheval est qualifié avec son monsieur.
Je pense que c'est des erreurs qu'on peut éviter.
Je
trouve que pour l'image, c'est quand même
qu'il faut éviter.
C'est quand même déplorable. Cédric.
Alors moi, je voulais justement rebondir un peu sur Looking Superbe. On parle souvent de forme et de méforme dans un sport et au cours. Je pense que ça s'applique encore plus qu'ailleurs parce que vous voyez que Jean-Michel Bazire en ce moment, n'importe quel cheval qu'il a entre les mains, il va au poteau. Dernier exemple en date à Fiorello, qui était encore dernier entre ligne droite, tout s'est ouvert, un cheval au galop, il a slalomé, et voilà, tout ça quand on n'a pas la forme, le cheval qui est devant vous il fait jamais la faute, on n'a jamais le jour, et voilà, je voulais parler vraiment, c'est important quand on fait le papier d'une course, parce que la forme, la méforme d'un driver, d'un entraîneur, c'est quand même assez important, et surtout dans ce métier qui marche beaucoup avec le moral. Je trouve qu'il faut prendre en compte ces écarts, donc pour les chevaux, pour les drivers et les entraîneurs qui font pas l'arrivée, et la forme pour ceux qui la font. Et c'est un paramètre qu'on met pas souvent en avant de peur de brusquer quelques professionnels.
Quand c'est la même forme.
Oui.
Voilà. Quand ils sont en forme, on le dit souvent.
Prendre un exemple, et je discute souvent avec Gabriel Gelormini était obligé d'aller à Cannes-sur-Mer pour aller s'imposer, car depuis le début de l'année, c'est quand même malheureusement assez moyen pour lui, et pas souvent de la chance, des fois des chevaux qui partent au galop alors qu'il y a une sixième chance. Début du meeting, ça se passe moins bien que l'année dernière, alors que c'est un driver qui a autant de talent, il n'a pas perdu le talent en 12 mois.
Et d'ailleurs, c'est les l'écurie de Christian Bijon qui fait d'habitude des très gros meetings d'hiver et qui cette année est un peu
les Bijons volent un peu moins haut.
Les Bijons ils volent moins haut et
attention, là, il a gagné une course à Vincennes en ce moment quand t'es cash driver, ça devient la guerre quoi.
C'est une
bataille absolument terrible. Il y a le jeu des agents, il y a la forme des entraîneurs pour lesquels tu mènes en priorité. Ça devient très très compliqué de gagner à Vincennes.
En plus, c'est chiant, vas-y, on gagne 9 sur 10, c'est chiant.
Et voilà, en plus, c'est ce que j'allais dire. En plus, quand t'as un gars qui te reçoit 60% des victoires à lui, c'est atroce. C'est compliqué, quoi.
Et pour finir, Franck Nivard, qui était un petit peu à l'écart en début de mois, là, revient vraiment en pleine forme dans cette fin d'année. 2 victoires le jour de Noël, avec plusieurs places, et voilà.
On a quand même des garçons. De grands talents. On va parler d'un jockey là, français à l'international. On a des garçons en piste de grands talents. On a eu un accident là il y a 2 semaines au Mans avec trois drivers qui se sont retrouvés au tapis, dont 2 qui sont sur la touche. Ça arrive quand même très rarement. Ils ont un talent, c'est incroyable, parce que les pelotons sont fournis et ça arrive finalement très peu souvent.
Effectivement.
Julien Cellier.
Eh ben moi je voulais rebondir sur Fado Duchesne dont Alexis a parlé tout à l'heure et surtout sur la montre de Paul Ploquin, parce qu'on l'a vu faire un véritable numéro d'équilibriste notamment dans le dernier tournant que son cheval a toujours un petit peu de mal à négocier, et on l'a vu c'est assez marrant adopter une position qu'on a l'habitude de voir chez Eric Raffin complètement tordu pour permettre à son cheval de garder l'équilibre. Ce qui est marrant, c'est que c'était Eric Raffin qui était à son extérieur. Et il y a même un moment dans le dernier tournant où Paul Ploquin a mis les 2 mains sur la même reine, du côté extérieur, sur la reine droite. Donc, personnellement, j'avais jamais vu ça, moi, à Vincennes, encore moins dans un groupe 1.
Et
vraiment, c'est une très très jolie montre, quoi. On a tendance à oublier que ces jockeys sont aussi des grands cavaliers pour certains.
Faut savoir à quelle vitesse on va aussi quand on fait des courses comme ça. On a vraiment vu une belle lutte.
Ouais, en plus.
C'est magnifique. Et en plus, Eric Raffin avait bien joué le coup. Il sait que Fado Duchesne est un cheval qui a du mal à prendre le dernier tournant. Il s'est dit, c'est là où je vais le torpiller.
Intersection
des pistes, il a craché. Il s'est dit, je vais faire passer Fincash. Et l'exploit de la montre de Paul que souligne Julien, c'est que Fincash a jamais vraiment pris l'avantage de façon rédhibitoire. Il a réussi à garder Fado Duchesne dans la course et effectivement il a fait quelque chose d'exceptionnel.
Et effectivement, on peut penser que si Fincash avait réussi à reprendre la corde, peut-être que l'issue de la course aurait été différente.
Ah ouais.
Attention à tes expressions. C'est vrai qu'on a des expressions que nous on emploie tous les jours aux courses qui peuvent paraître bizarres. Frédéric Kita.
Moi, je vais saluer la performance de Christophe Lemaire, qui est tout simplement devenu le recordman de succès en une année au Japon. Il a réalisé un coup de 4 donc ce vendredi à Nakayama, donc ce qui porte son total à 215 succès. Il bat ainsi l'icône nippone Yutaka Take.
Voici à dire pourtant.
Voilà, je savais que j'allais bugger là-dessus.
Yutaka Take.
Donc 3 succès de plus. Ce qu'il faut saluer aussi, c'est que c'est sa deuxième cravache d'or au Japon d'affilée. Il a une licence permanente depuis 2015. Au Japon.
C'était le premier jockey étranger, je crois,
avec Pierre Demiro. Ils étaient 2 à avoir cette licence permanente, et vraiment un coup de chapeau pour Christophe Lemaire qui vit très bien là-bas et qui en plus réalise de sacrées performances. Prochain cap, donc c'est les 1000 succès au Japon. Qui est à 900, il va y arriver très rapidement. Et l'année prochaine, dans l'Arc de Triomphe, si tout va bien, il devrait avoir Allemand Ace, qui a fait grosse impression dans la Japan Cup. Après, pour l'instant, en troisième position.
Qui a gagné la triple couronne.
Voilà, triple couronne. Troisième position chez les bookmakers. Il reste encore beaucoup de chemin d'ici là. Mais en tout cas, il espère remporter un premier succès pour le Japon avec.
S'il arrive à offrir au Japon son premier succès dans l'arc, déjà que c'est une star là-bas, mais alors là, ce serait un dieu vivant, quoi.
C'est ça.
Et ça fait bien qu'il va voir arriver Franck Blondel, puisque Franck Blondel a une licence de 2 mois pour aller au Japon.
Il va le voir arriver. Lui, il reste à la tour. Alex, tu voulais dire quelque chose?
Non. C'est vrai que si, je sais pas qui a dit ça, mais si en plus Christophe réussit à gagner l'arc pour le Japon, c'est que que c'est la quête du Graal. Il sera l'équivalent des plus grands sumotori, et je pense qu'il passera même dans le cœur des durfils japonais. Au-dessus d'Olivier Pellier, qui a été le premier jockey français adulé là-bas. Olivier Pellier, à l'époque, il avait des mangas.
Et qui a tortillé Orfèvre avec Soleil.
C'est ça, malheureusement.
Voilà, exactement. Exactement.
Il se voyait gagner. Ça, cette course-là, elle était incroyable.
Je me souviens de la vidéo des supporters japonais. Vous pouvez voir sur YouTube.
C'est-à-dire il y a Orfèvre qui est en tête. Même moi, j'étais sur place, j'étais à Longchamp. J'ai vu Orfèvre prendre le meilleur avec Christophe Soumillon. J'ai regardé derrière pour voir qui allait être troisième, quatrième, cinquième. Et le temps de tourner la tête, Solémia, Pourtant, Olivier Pelly était venu lui remettre un petit nez au passage du poteau. Et c'est vrai, quand on regardait les vidéos, on voyait les Japonais dégoûtés de voir. En fait, puis à un moment, on les voit dire, oh, c'est Pelly en plus. C'était affreux. C'était affreux. Yutaka Take.
Yutaka Take.
Les chaussettes de l'archiducé. Allez, on va te libérer, Alex. Tiens, tes chevaux pour le quartet de cet après-midi et de demain.
Ah bah demain ça va être fabuleux. Alors cet après-midi il y a plusieurs concurrents standard bred, étrangers de grande classe. Je pense que ça va être un quintet de favoris. Je pense que ça va être très compliqué pour les chevaux qui rentrent 25 mètres, même s'ils ont beaucoup de qualité. Et pour sortir des deux grands favoris, enfin je dirais peut-être Cocktail Fortuna. Qui fera partie des chevaux en vue aussi.
Ah bah il est à 3 contre 1. Il y a 2 chevaux en 3 contre 1, Superfest et Cocktail Fortuna.
Voilà, Cocktail Fortuna qui a gagné en cheval un peu déclassé l'avant-dernier coup, qui a confirmé en province, et qui peut faire mal à Superfest et à Bebop au Fort, qui a été préparé vraiment pour cette course. Mais bon, comme les Bigeons n'ont pas retrouvé leur superbe meeting d'hiver, j'irai davantage sur Cocktail Fortuna. Et puis demain, magnifique prix de Bourgogne et course non seulement de préparation mais dans laquelle on va avoir un Ready Express qui va devoir sortir le grand jeu parce que le cheval n'a pas beaucoup couru, il est selon son entourage et son entraîneur notamment déjà bien affûté et je pense qu'il va être dur à taper évidemment.
Donc tu vois Ready Express qu'on n'a pas revu à Vincennes depuis sa victoire au Prix d'Amérique, s'imposer pour son retour sur le plateau.
Son entraîneur est un homme qui sait présenter des chevaux de façon espacée très près. Travaille beaucoup sur le fond et il fait juste un peu de vitesse pour finir. Mais c'est un entraîneur qui travaille peu sur la vitesse et énormément sur le fond, qui a la réputation d'être assez dur. Donc je pense qu'il sait ce qu'il a il sait ce qu'il fait quand il vient faire une rentrée à un mois de label, un peu moins d'un mois de label dans le Prix de Bourgogne, quoi.
Entraîneur Timo Nurmos. Merci Alex.
Salut les gars.
Salut.
Bon dimanche. Bon samedi. Tout au long de ce week-end, week-end sur l'hippodrome de Vincennes. Évidemment, il faut y aller à Vincennes. Vous allez vous régaler avec ces superbes courses. Sinon, vous écoutez RMC, on vous donne les résultats, vous regardez Equidia. On se retrouve dans quelques instants pour justement évoquer ce quintet de cet après-midi avec tout simplement le pilote de Cocktail Fortuna.
13h-14h, les courses RMC.
PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
13h-14h, les courses RMC.
PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker. PMU.
Les courses RMC, Sébastien Darras.
Avec Cédric Quietta, qui est en direct de Vincennes cet après-midi. Julien Cellier, le Parisien.
On est prêt.
En France, Frédéric Quitta,
toujours là.
Surf, qui est là. Fidèle au poste. On avait Alexis Lévy, il y a quelques instants, qui nous a donné ses tuyaux pour les quintets de ce week-end. Et justement, on va évoquer notre quintet de cet après-midi, prix de Bar-le-Duc. Avant cela, messieurs, j'aimerais bien qu'on parle du prix Yvonique Bodin. C'est une épreuve qui est importante, chaque année. Très importante pour les apprentis
montés.
On va déjà expliquer ce qu'est le prix de Cornouiller. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Le prix de Cornouiller, ça se passe une semaine avant l'Amérique.
C'est ça, c'est l'équivalent du prix d'Amérique pour les trotteurs qui évoluent au monté. Et là, on a l'équivalent du prix de Cornouiller, mais pour les apprentis. Alors, il n'y a pas les meilleurs chevaux parce qu'il y a une limite de gain, mais il y a des très très bons chevaux et certains des protagonistes du jour pourraient bien être en piste le 20 janvier.
D'ailleurs, il y en a un qui a couru donc le Cornouiller l'année dernière, Canadien Dame.
Qui est programmé pour courir le 20 janvier.
Maintenant, il a qu'une course dans les jambes.
Donc là, on a des apprentis et la jockey. Ça signifie qu'ils n'ont pas encore le nombre de victoires pour devenir professionnels. Mais on a vu des grands pilotes courir cette course. Je pense à Brivard, Mathieu, Alexandre, qui ont gagné. Camille Lévesque l'a gagné. Antoine Diels.
C'est pas un passage obligé, mais quasiment.
Mais c'est pas mal.
Ça dénote pas sur une carte de visite.
D'ailleurs, on remarque aussi au palmarès que les demoiselles ont une très bonne réussite ces dernières années, avec énormément de succès.
Et oui, on le rappelle, c'est un sport mixte. Voilà,
exactement.
Les hommes affrontent les femmes aux courses. C'est le cas au galop également, même si désormais, depuis maintenant un peu plus d'un an, les demoiselles ont dans la plupart des courses une décharge au poids, un avantage au poids. Notre quintet du jour, c'est le prix de Bar-le-Duc. Ils sont 17 au départ de cette épreuve. Les favoris sont Superfest le 14 et Cocktail Fortuna le 2. Normalement, Gabriel et Jules Ormini devraient être avec nous dans quelques secondes pour nous parler de son partenaire Cocktail Fortuna avec qui il s'est baladé l'avant-dernière fois sur les hippodromes de Vincennes. On va commencer par celui qui est sur place. Est-ce qu'il y a eu des échauffements, des hits, Cédric?
Pas encore. Ça sera certainement après la deuxième. Pour ma part, moi j'aime beaucoup Tessie d'été, le numéro 13. Alors peut-être c'est pas la même jument qu'il y a deux saisons, mais je trouve qu'elle a un engagement très favorable. Elle est déférée des quatre pieds après une course de rentrée qui était pas si mauvaise parce que bon elle est certes dixième mais c'était une course de préparation, le chrono était pas tout mauvais et je trouve qu'avec Franck Nivard et vu l'engagement c'est peut-être sa course de l'hiver, elle a 6 ans, c'est la plus jeune, elle est bien engagée donc une cote un petit peu de méfiance, ouais, ça me plaît beaucoup.
Cote de méfiance, bah, c'est peut-être l'effet Nivard non?
Oui, mais bon, elle a quand même des titres, hein, cette. Oui.
Non, mais elle a des titres. Moi, je lui verrais une toute première chance si j'avais pas peur qu'elle manque un peu.
Oui, mais il y a quand même un super engagement malgré tout. Et puis, c'est comme l'a dit Cédric, c'est une jument qui a évolué à un niveau un peu supérieur. Donc, elle aurait même pas besoin d'être finalement à 100% pour lutter pour les toutes premières places dans ce lot. Même si bon, on en reparlera. Il y a deux autres étrangers qui s'annoncent redoutables, mais c'est effectivement en valeur pure, c'est sûrement l'une des deux meilleures juments au départ.
Enfin, oui, meilleurs concurrents au départ. Deuxième de dégâts du Pomereux l'année dernière. Elle a devancé Trader. Très bonne réussite sur le parcours. Maintenant, la dernière fois, c'est vrai que comme c'est sa rentrée, elle a vraiment manqué dans la phase finale.
Rentrée après quasiment un an.
Voilà. L'effet déféré des quatre pieds, Franck Nivard, est-ce que ça va tout changer? Moi, j'ai des doutes, même si sur le papier, c'est effectivement la meilleure chance théorique.
Et que c'est une maison dans laquelle, en principe, on court quand même très bien. Voilà, il n'y a pas trop de rentrée. Mais l'autre jour, il y a eu une rentrée, effectivement, bon, c'était pas la même. Après, il y avait cet engagement qui arrivait, qui était effectivement sur mesure. Qu'on voit Fred du côté de Zone Turf dans cette épreuve.
Bah, du côté de Zone Turf, il y a un cheval que je suis, c'est Tinamo Jet qui vient donc d'être disqualifié dans la dernière course. Il luttait pourtant pour une place. S'il fait sa valeur du mois de septembre où il gagnait dans un groupe 3 devant de bons éléments comme Deloro Vedake, Cap Matisse ou Super Nice, il peut se réhabiliter et on peut aussi souligner que son driver, donc Kevin Leblanc, a remporté un quintet cette semaine avec Cayenne de Well.
Deuxième de sa jeune carrière.
Deuxième en 8 tentatives à ce niveau.
Très bonne
réussite. Donc franchement, avec Tina Mojet, s'il est sage, il devrait terminer dans la bonne combinaison.
Avec Cayenne de Well, effectivement, qui lui avait déjà offert son premier quintet.
Exactement, en province.
Juste à Toulouse, après l'été. Ou Bordeaux.
Voilà, pour l'entraînement de son papa, Franck Leblanc. Voilà, le duo en grande forme. Hein. Justement, Kevin Leblanc et Franck Leblanc. Julien, des infos sur ce quintet. Je sais qu'on a beaucoup bossé. J'ai regardé un peu les pages du Parisien.
Bah, on a bossé comme d'habitude.
Non, non, c'est pas vrai. Il y a des creux.
Bon, tu m'indiqueras quand on a. Hein.
Non, je ne dénonce pas.
Non, moi j'aime bien le 9 Classe de L'Oriole, alors que je rachèterai sur sa dernière sortie qui était bien meilleure que ne peut le laisser penser la disqualification parce qu'elle s'annonçait compétitive pour les premières places quand elle s'est montrée fautive à mi-ligne droite. Et il faut se rappeler finalement ses sorties précédentes, que ce soit à Nantes ou à Vincennes où elle courait très très bien. Alors elle a pas une très très belle réussite sur la grande piste de Vincennes, mais elle a montré l'autre fois qu'elle était quand même capable de bien faire. Et puis elle retrouve Eric Raffin, ce qui ne gâche rien, donc je la rachèterai bien volontiers.
Et en plus, elle était déférée des 4, la dernière fois, elle est déférée des postérieurs, il y a eu un changement là-dessus, parce qu'elle lui a pas convenu, d'après son entraîneur.
Avec les rédicaches, c'est parfois le cas, hein. Mais pas trop, on lui retire les chaussures devant.
Effectivement. Bah, Google, il a supporté. Après, il y a eu des conditions de course particulières. On en reparlera certainement tout à l'heure.
Je sais, mon père marchait pieds nus. C'est pour ça que je marche pieds nus en studio. Pareil que Reddy Cash. Bref, Classe de L'Oriole, le 9. Je suis en train de regarder la cote, qui est à la cote de 14 contre 1. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant pour Classe de L'Oriole. J'ai toujours adoré cette jument. Moi.
C'est une très bonne jument. Ouais. Et c'est vrai qu'à 14 contre 1, c'est un pari amusant. Alors, effectivement, pour gagner, il faudra vraiment que ça se passe bien parce qu'on va parler de deux chevaux étrangers qui ont attiré le maximum d'argent, mais elle est tout à fait capable de finir sur le podium. Ouais.
Classe de L'Oriole, le numéro 9. Alors évidemment, il faudra battre Superfez. On en parlait tout à l'heure, Alexis Lévy, le numéro 14, la grande forme dans l'écurie de Jean-Michel Bazir. En plus, celui-là, depuis qu'il est arrivé chez Jean-Mi, ça se passe très très bien. Et Cocktail Fortuna, le 2. Normalement, Gabi Gélormini, dès qu'il a fini, dès qu'il est sorti de la cantine, devrait être avec nous.
Et Gabi Gélormini qui connaît bien Superfez.
Exactement. Ce qui sera un avantage au Sulky de Cocktail Fortuna.
Oui, Coxel Fortuna qu'on connaît également très bien sur les antennes d'Equidia puisqu'on a, il a commencé sa carrière à Volvega, hein. Et je pensais pas qu'il allait arriver à ce niveau-là à 9 ans maintenant qu'il est sur Uberberg. En plus, il a une histoire assez amusante, il est passé par la Norvège, un tout petit entraîneur, un petit peu à l'instar de Looking Superb, et maintenant il est sur Uberberg et il enchaîne les succès en découvrant la grande piste de Vincennes.
Un peu ton truc, Volvega, hein?
Oui, j'aime beaucoup.
Volvega. Pour Cédric Yeta, qui est à Vincennes cet après-midi. On a Michel avec nous au 32-16.
RMC, le tuyau du parieur.
Bonjour, Michel.
Et bonjour, comment ça va?
Ah, Michel. Salut, enfant, Michel. Michel. Ah, Michel, un habitué des courses RMC. Comment se passent les fêtes?
Hein? J'ai retrouvé la forme.
Pourquoi? Qu'est-ce qui s'était passé?
Je viens de toucher le gagnant à Bordeaux.
Ah.
Bon, et le couplet, Bordeaux, c'est un peu ton truc. Avec le gagnant et le troisième.
Et tu nous avais pas donné. Et tu pouvais pas nous appeler. Ah, bon. Tu pouvais pas nous appeler en début d'émission pour nous donner les gagnants.
J'aurais dû.
Ah bah c'est
j'aurais
pas t'aurais dû, Michel. Au revoir, Michel.
Je vous attendais parce que j'ai mon balcon donne sur la ligne droite de Bordeaux. J'ai plus qu'à traverser la route. Et je vous ai attendu pour, comme je savais que je devais passer à l'antenne.
D'accord.
Je vous ai attendu.
Et voilà. Nous, on attend que tu nous invites chez toi pour faire l'émission.
Eh bien, avec plaisir, quand vous voulez, y a pas de souci.
On va faire comme Eric Brunner. On va se déplacer. On va venir chez toi. Alors par contre, il va falloir prévoir refaire la peinture, tout ça après, parce qu'on est quand même, on risque de mettre un peu le bazar. C'est vrai, tu vois la ligne droite de Bordeaux de chez toi?
Ah, de mon balcon, je vois la ligne droite.
Et si tu cries sur les chevaux et les jockeys, ils t'entendent ou pas?
Non, je pense pas. par contre, à l'inverse, je les entends crier. Moi.
Tu les entends crier? Ah oui, ça fait beaucoup de bruit. On s'appelle hein, dans les pelotons régulièrement.
Voilà.
On a un joli week-end qui nous attend, Michel,
et ce
quintet là, le prix de Bar-le-Duc, on va dire qu'on est un peu dans l'antichambre des bons, hein, même si c'est pas.
Ah bah c'est un très beau quintet, ouais,
très joli quintet. Il y a quelques chevaux qu'on peut éliminer, clairement. Je pense à Caprice du Lupin, même si on le respecte beaucoup. Voilà, ce sont des rentrées, des chevaux qui sont ferrés. Babylon 7, pareil. Bellavis. Bon là, clairement, on a annoncé la couleur. Est-ce qu'on va pouvoir toucher une jolie cote? Qu'est-ce que tu vois dans ce quintet?
Non, disons que j'ai fait un pas sur les favoris, bien sûr, parce que bon, c'est pas donné ce que tout le monde donne. Mais bon, je trouve qu'il y a un cheval qui est bien engagé. C'est le numéro 12, Bibop Dofort. Ben, c'est un cheval qui est dur. Bon, il va avoir du rhin. Je crois que c'est de l'engagement visé. J'avais dit la semaine dernière que l'écurie à Brivard est en réforme, mais depuis que je leur ai dit ça, cette semaine, ils sont presque arrivés.
Donc tu dis pareil de Bijon, c'est ça?
Et je dis pareil de Bijon, alors j'ai essayé de porter chance comme j'ai porté chance à Monsieur Abrivard. Donc je vais vous donner le 12. Je pense que dans les 5, ça devrait le faire. Il était à 7 contre 1, je crois.
Oui, c'est ça, il y a 6,70. Voilà. En plus, c'est vrai qu'on dit que l'écurie de Christian Bijon est en méforme. C'est faux, elle n'est pas en méforme.
Elle n'est pas dans sa forme habituelle.
C'est quand même nettement inférieur à d'habitude.
Voilà, c'est ça. Et Bibop au fort fait partie des chevaux qui finalement ont bien couru. L'autre jour, il courait avec ses fers. Donc voilà, je peux pas demander la règle à Lionel, puisqu'il est actuellement dans le Grand Nord à la recherche du Père Noël, où il sert de lutin. On l'embrasse s'il nous écoute, Lionel. Donc moi, je vais la donner, la règle. Si Bibop au fort est dans les 5, tu seras avec nous la semaine prochaine, Michel, et ça sera
C'est gentil. Par contre, j'ai deux questions à vous poser.
Aïe.
Comme je vais au Bouscat, je vais traverser la route, j'ai deux chevaux à jouer, vous allez me dire ce que vous en pensez.
Attention en traversant la route, hein, Michel.
Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, Aperto Wild, dans la 7e, un cheval à d'Auvernay.
Ouais,
belle chance.
Et Alamo du Goutier, dans la dernière.
À la Mougoute du Goutier,
va être un bruit dans le grand prix d'hiver.
Après, il y a Clark Soto
qui est à distance.
Il y a Clark Soto dedans, il y a Cébélo Romain, il y a quelques chevaux.
Clark Soto ferré. Je sais pas. Mais bon, Clark Soto, l'autre jour, c'était extra.
Mais l'année dernière, il avait gagné, il n'était pas ferré à Bordeaux. Il n'était pas déferré, il avait gagné.
Salut d'ailleurs son entraîneur, qui était avec nous la semaine dernière et qui a eu une très belle réussite avec ses deux pensionnaires dans le quintet. Donc tu as ta réponse, Michel, première chance pour les deux.
Ah ben je vous remercie.
Voilà. Tu peux mettre le double et on prend que 10%. Merci Michel. En tout cas,
d'avoir été
avec nous.
Bonne fête à vous, hein.
Bonne fête Michel. Et on se retrouve l'année prochaine.
Merci, au revoir.
Salut Michel. Le 12, logique, Bibop au fort. On a parlé du 2, Cocktail Fortuna. Le 13, Tessie d'été. Le 4, Tinamo Jet. Le 9, Classe de l'Oriole. Le 12, Bibop au fort. Et bien évidemment, on est obligé d'ajouter Superfez, le 14, qui est le favori pour l'instant de cette épreuve. Ça se joue entre Superfez et Cocktail Fortuna. Qui va gagner, Fred, Cocktail Fortuna ou Superfez?
Bah, disons que comme Bazir marche sur l'eau, je dirais Superfez.
Superfez?
Ouais, parce que Bazir.
D'accord. Cédric, t'as l'air d'approuver.
Non, ni l'un ni l'autre.
Ni l'un ni l'autre.
Ah. Toi, non, mais j'aime
Bebop.
Non, j'aime beaucoup Décidété, donc je vais jouer ça gagnant. Hein.
Décidété à 15 contre 1 avec Franck Nivard qui est en grande forme également. Julien.
Oui. Moi, Cocktail Fortuna, moi. Voilà. Il m'a vraiment fait très grosse impression l'avant-dernière fois.
Ouais, moi aussi.
Vraiment.
Moi
là
aussi.
Où je pense que Superfez a certes Jean-Michel Bazir dans le sulky, mais un peu moins de marge.
C'est vrai. C'est marrant quand même d'avoir un cheval comme ça. C'est un cheval d'origine hollandaise, mais il a 9 ans, on a l'impression qu'il est déclassé. C'est bizarre de dire d'un cheval de 9 ans qu'il est en retard de gain.
Ah, c'est très rare quand même qu'il se révèle si tard. On a souvent, on voit souvent des chevaux de 5, 6, 7 ans éventuellement qui arrivent en France et qui sont vraiment déclassés au gain. Lui, c'est vrai qu'à 9 ans, c'est étonnant que son entourage n'ait pas pensé à venir chez nous plus tôt.
C'est comme la jument là qui est arrivée, Ranch Kelly, qui a fait une super course en arrivant.
Oh, elle était impressionnante. Je me suis dit celle-là.
À 10 ans, parce qu'elle a 10 ans, c'est pour ça que j'en parle. Et après derrière, ça s'est moins bien passé. Mais en tout cas, sa première à 10 ans avait été excellente.
Cédric, c'est parti ou pas, Vincennes?
C'est même arrivé avec la victoire de Forain Génilou, Damien Bonne, qui s'impose 4,50€ et il a su résister au numéro 10, à Furie d'Avaroche, qui était le favori. La troisième place à distance pour le 2 à Falco 1000 et la quatrième pour le 6, Fakir Dubois. Je vous rappelle que le 3 était non partant. 7, 10, 2 et 6, l'arrivée de la première.
7, 10, 2 et 6, la première à Vincennes. Nous, on se retrouve justement dans quelques instants sur RMC pour évoquer le Grand Prix de Bourgogne. Et pour parler de cette épreuve, on aura un entraîneur avec nous, et pas des moindres. Restez avec nous sur RMC, c'est dans quelques secondes, on est ensemble jusqu'à 14h.
13h-14h, les courses RMC.
PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
13h-14h, les courses RMC.
PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. PMU.
Les courses RMC, Sébastien Darras.
Et Cédric qui est en direct, le Vincennes. Julien Cellier, le Parisien, aujourd'hui en France. Frédéric Kita de ZoneTurf.fr. On vous attend au 32-16 pour jouer au tuyau du parieur. On s'intéresse à notre quintet de luxe de ce dimanche à Vincennes. C'est le Grand Prix de Bourgogne.
RMC, l'invité des courses.
C'est un habitué des courses RMC. J'ai pour habitude de dire qu'il a son rond de serviette. Thierry Duval d'Estaing nous fait l'amitié d'être avec nous. Salut Thierry.
Bonjour à tous.
Bonjour Thierry.
Je vais te poser une question un peu bizarre à la radio. En même temps, on est en période de fête. Est-ce qu'avant le Calva, tu prends un petit coup de Bourgogne?
Ouais, souvent.
Souvent?
Ouais. Ça arrive.
Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Tu présenteras Briac d'Arc demain dans le Grand Prix de Bourgogne, qui est une épreuve préparatoire, qualificative au Prix d'Amérique. Il était troisième d'ailleurs de cette course l'an passé. Et je crois que l'idée, c'est d'aller courir le Calvados, qui est une course autoremontée, afin de courir le Cordulier cette année?
Ouais, voilà. Mon cheval est toujours bien. Il n'a jamais couru monté. L'année dernière, il a fini le cinquième du Prix d'Amérique, donc c'était très très bien. Hein. Et bon, là, cette année, on s'aperçoit qu'il y a, quand on fait les comptes, il y a 7 chevaux meilleurs que lui sur le papier. Mm-hmm. Hein, donc ça nous repousse un petit peu plus loin et on se dit que c'était l'année ou jamais pour essayer de courir le Cordelier, quoi.
Vous l'avez essayé, j'imagine, à l'entraînement, monté?
Oui, j'ai essayé à la maison, gentiment. Ouais. On a fait un petit peu plus de 2000 mètres montés et ça se passait bien, ouais, ça va bien. Ouais.
Qu'est-ce qu'on en attend demain? Parce que forcément, quand on voit Briac d'Arc, notamment sa dernière course, ses performances du dernier meeting hivernal, c'est un super cheval, on le connaît bien. Finalement, il est jeune, hein, il a 7 ans. Toi, tu dis qu'il y en a 7 qui sont meilleurs que toi, mais c'est un cheval qui est capable de belles choses.
Hein. Ouais, c'est un bon cheval. La dernière fois, il fait une super course, il a pris les devants. Après, il a contré en montant Trader, ça a mis monté, qui a voulu lui prendre la tête. Bon, après, il a contré Paul Diggle, et qui a pas pu lui prendre la tête non plus. Donc, il s'est bien battu. Hein, il s'est bien battu la dernière fois. Il courait très bien. Bon, là, le Bourgogne, demain, ça va pas être plus facile. On a un très bon numéro.
Oui, le 2.
Mais ça va pas être plus facile. On va essayer de se qualifier quand même en allant chercher la troisième place. Mm-hmm. Mais c'est pas évident, mais bon, je pense que mon cheval reste bien quand même.
Parce qu'Auguin, vous êtes sûr de ne pas rentrer si jamais il ne termine pas dans les trois premiers?
Si, je pense qu'Auguin, on peut rentrer. Ouais. Je pense que oui, quand même, hein, parce que l'année dernière, on a vu que c'était Tony Gio qui avait le 1.
Ouais.
Et il avait bien moins de gains que Briac Dark. Hein. Et bon, des fois, au dernier moment, il y a une ou deux abstentions et ça laisse de la place, mais Auguin, ça devrait passer, je crois.
Oui, surtout qu'on voit, là, on parle de qualification, on va rappeler les règles pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément. Les trois premiers de ces courses-là sont qualifiés. Et souvent, on retrouve les mêmes dans les trois premiers. Je pense à Delia Dupomereux,
Delia,
qui,
voilà,
qui est déjà doublement qualifié.
Parker et Delia.
Donc c'est voilà, ça réduit un peu le nombre de chevaux.
Oui, mais ils ont pas beaucoup de gains, hein. C'est Davidson Dupont et Delia Dupomereux qui ont pris deux places à des chevaux qui ont des gains.
Oui, non mais c'est pour ça, c'est ce que je voulais dire. Je veux dire, on retrouve quand même les mêmes souvent à l'arrivée de ces 4 B, ce qui fait qu'il reste quand même encore un peu de place pour les chevaux qui ont ces gains-là, et notamment Briac Dark. Tu t'as dit, Thierry, que c'était un bon numéro, le 2 l'année dernière, il avait le 15, il est 3e. On peut quand même espérer faire au moins aussi bien.
Ouais, c'est vrai, l'année dernière, il faisait une super course, il était venu derrière, hein, c'est comme ça qu'il est un petit peu mieux, en venant de l'arrière. Mmh. Hein, bon, le départ au 2100 va pas le désavantager, hein, et le départ sur la portion plate de la course va l'aider un petit peu. Non, on attend une bonne course, quand même, hein. Après, le Bourgogne, c'est assez révélateur, quand même, de la forme des chevaux, hein. Moi, quand Freddy Cash, il gagnait le Bourgogne, quand il gagnait bien, il a gagné deux fois le Bourgogne, je crois. Mmh. Quand il gagnait bien et ça voulait dire qu'il était prêt, quoi. Il n'y avait plus rien à faire, il y avait juste de l'entretien à faire jusqu'au Prix d'Amérique. C'est vraiment un test, le Bourgogne, je
pense. Oui, pour toi, c'est une épreuve qui est plus révélatrice des forces en présence que le Prix de Belgique qui se déroule 15 jours plus tard?
Oui, tout à fait. Pour moi, c'est le Bourgogne, ça permet de voir, pour l'entraîneur, de voir le degré de forme du cheval. Et je vous dis, quand Freddy Cash gagnait le Bourgogne, il gagnait le Prix d'Amérique derrière. Quoi. Ça veut dire, au Bourgogne, 4 semaines avant, c'était idéal pour voir si le choix était prêt ou pas. Ouais.
Je suis entièrement d'accord.
Mais il y en a 4 qui ont fait le doublé lors des 10 dernières années. Freddy Cash, Moldu Corta et bien sûr Bold Eagle.
Après, si on n'est pas prêt dans le Bourgogne, il y aura quand même un petit peu de temps pour affiner. Hein.
Oui, bien sûr.
Si on est prêt au Bourgogne, je pense qu'on n'a plus que de l'entretien à faire après.
Donc là, l'idée Briac, ça voudrait dire, bon, on espère faire aussi bien que l'année dernière. Et l'année dernière, battue par Propulsion et Bold Eagle, excusez du peu. Faire aussi bien que l'année dernière. Ensuite, le Calvados, c'est dans 15 jours.
Non, mais pas, c'est la
semaine prochaine.
Non.
Ah, c'est ça, c'est la semaine prochaine. Oui, c'est dimanche prochain.
Il n'y aura pas de Belgique, du coup.
Si vous voulez, c'est pas une course que j'aurais voulu courir, le Calvados.
Mais t'es obligé,
oui, c'est obligé. Il n'a jamais couru montée.
Ouais, c'est la règle.
Et on est obligé de passer par cette course qui va nous qualifier pour le Cornulier. Moi, j'aurais été sur le Cornulier directement.
Bah d'ailleurs, c'est une règle assez récente, hein. Ça a quelques années, ça.
Ça a quelques années.
Éviter l'arrivée des.
Il y a eu des cas.
Ouais, tout à fait. Donc le Cornulier, et puis après faire comme les Jacques de Belloet, après, à l'époque, aller sur l'Amérique une semaine après le Cornulier.
Voilà, on va essayer si ça tient.
Est-ce que le jockey de Briac Dark est déjà connu? Est-ce que c'est Mathieu Abrivard qui lui sera associé?
Ouais, c'est Mathieu. Hein, il a plus sa jument de l'année dernière, là, qui était parti au Haras. Ça va être Mathieu.
Et est-ce que justement le choix d'orienter Briac Dark vers le Tremonté a été fait en concertation avec Mathieu ou c'est de ta propre décision, si je puis dire?
C'est un petit peu tout le monde. Hein, Mathieu, vu qu'il n'a rien encore ça lui dit pas, évidemment. Hein, être propriétaire également, et puis sachant les origines qu'il a, quoi, son père, Prince Gégé, c'est un vrai choix qu'elle montait, donc il avait les origines et l'allure pour aller au Tremonté. Mmh. Donc après il a peut-être un petit peu les jambes fragiles, donc il y a un risque aussi, mais bon, il faut essayer. Hein.
Et est-ce qu'il y a l'espoir de venger le père finalement dans le Cornulier?
j'aimerais bien. Après il y a Trader, Billy Billy, on les connaît. Hein, c'est un coup de poker. Ce sera un coup de poker.
On dit ça pour nos auditeurs qui ne le savent pas parce que Thierry entraînait Prince GD comme il a entraîné Pearl Queen, Saxo de Vendel, Return Money et Reddy Cash dont on a parlé qui a remporté quand même deux fois le prix d'Amérique.
Moi je voulais juste dire en fin de meeting l'objectif sera toujours le Grand Prix de Paris j'imagine pour Briac Dark.
S'il est pas fatigué hein, parce que là il va avoir un programme beaucoup plus chargé que l'année dernière, donc c'est vrai que s'il est pas fatigué il finira par cette course du Prix de Paris.
Thierry, j'ai regardé un peu les... Tu sais, je suis très statistique comme mec. J'ai regardé les testades de cette année. 38 victoires en tant que pilote, 145 en tant qu'entraîneur, quatrième au niveau des entraîneurs en France. J'ai l'impression qu'on délègue de plus en plus. Théo, 26 succès. Clément, 58 victoires. Déjà, 58 victoires. Comment ça se passe, le travail en famille?
Bah, ça se passe bien. Je suis content de les avoir, évidemment. Ils m'aident bien. Hein. Après, bah voilà, moi j'ai gagné pas mal de courses déjà.
Hein. C'est moi qu'on puisse dire.
Donc c'est normal de les aider, quoi, de leur donner un peu des munitions. Hein. Et ouais, c'est vrai que moi je drive de moins en moins. J'ai bientôt passé troisième driver de la maison. Donc, oh non, mais sympa, sympa. Vous savez, j'approche, j'ai mis 500 courses, j'ai mis quelques groupes 1 déjà.
Ouais.
Donc bon,
bonne vingtaine.
Il faut penser aux enfants, quoi.
Ouais. Et... Ah, justement, tu dis c'est pour les aider ou ça te libère aussi? C'est pas, parce que toi, t'es jeune, aussi. T'as 47 ans, je crois.
Ouais, voilà, ouais, moi aussi, à 25, j'ai un petit peu plus de mal, hein, driver, c'est plus dur. En province.
C'est bon, pas ce que j'ai vu, plus... hein, cette année, hein.
Ouais. Non, si, c'est un petit peu plus dur pour moi. Si, non.
D'accord.
En province, ça va bien, mais à Vincennes, c'est vraiment le summum, hein. Donc, voilà, après, si Clément et Théo, ils se mettent gentiment, bah, plus tard, ils iront à chaque fois à Paris, et moi, j'irai plus à Paris, mais bon, bah, c'est une petite logique, quoi.
Pourquoi tu dis que c'est plus dur? Tu parles du niveau? Tu parles physiquement? Tu parles de quoi exactement?
Non, physiquement. Pas physiquement, du niveau, quoi.
Ouais.
Pour être bon, il faut courir souvent.
Ouais.
Il faut courir pas mal de courses et bah moins on y va, bah moins on pratique. Et si on va courir une fois la semaine à Vincennes, et ben c'est plus dur avec les collègues, tout ça. On a moins nos repères, on est plus stressé un petit peu même. Hein. Donc il faut pratiquer sans cesse pour garder la cadence. Hein.
Ouais, des pilotes de Formule 1, messieurs. Là, on est une vingtaine sur la ligne et derrière, ça commence à devenir un peu plus dur. C'est Thierry Duval d'Estaing qui dit ça quand même. Thierry, t'as appris le métier notamment auprès du chef Jean-Pierre Dubois. T'as gagné le critérium des jeunes, le critérium des 3 ans, des 4 ans. Je crois qu'il en manque un à ton palmarès. Avoir gagné tous les critériums, c'est ce qui fait les grands entraîneurs.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Gagner un cornier, j'aimerais bien un jour aussi. Mais bon, voilà, on gagnera ce qu'on gagnera. Mais
d'accord. On a gagné deux fois le prix d'Amérique.
Oui. Non, ce qu'il nous faut maintenant, c'est des joueurs qui se motivent un peu à jouer au futur nouveau quintet là, et essayer de donner des bonnes informations à nos turfistes qui sont nos alliés. Hein,
ouais.
Et
la base voilà, de la pyramide.
On a besoin des turfistes et on les adore aussi. Hein, voilà.
C'est la base de la pyramide et c'est pour ça qu'il faut bien les traiter, les turfistes. Et tu fais partie des entraîneurs très disponibles et d'ailleurs on t'en remercie. Tu as dit tout à l'heure qu'il y avait 7 chevaux meilleurs que toi devant Briac d'Arc.
Ouais.
Comme j'ai l'esprit un peu tordu, je vais te demander ton petit pronostic pour l'Amérique. C'est en 7.
Alors, le pronostic Radley Express.
Ouais. Ah, tu penses qu'il va gagner un deuxième prix d'Amérique, toi?
Ou Bellina.
D'accord.
Les 7 chevaux au-dessus de Royal Dahl, donc c'est simple, hein, c'est Ready Express, Bellina, Gold Eagle, je mets Propulsion dans le lot.
Propulsion.
Hein, je mets les 2D, là, Davidson Dupont et Dahlia Dupromereau.
Logique.
Voilà, ça fait 6 et je rajoute Burt Parker. Ça
et
fait
Burt Parker, voilà. Il y a quelques...
Et Royal Dark, il vient en 8 seulement.
Il y a quelques Ready Cash là-dedans. Hein,
bah, déjà, dans la course de demain, il y en a un paquet aussi.
Ah, bah, dans la course de demain, il y en a déjà 6.
Ouais,
c'est incroyable. Incroyable. Avant de te libérer, Thierry, on sait qu'il y a du boulot, notamment avec First Destin dans la 7e. Après sa bonne rentrée, on a l'impression que ça peut le faire.
Ouais, c'est un bon poulain. C'est un bon poulain, 2 ans. Après, il a connu une tendinite. Il a été longtemps éloigné des pistes. C'est un poulain que j'estimais beaucoup à 2 ans. Bon, l'autre jour, la rentrée, elle était bonne. Après, il faut se méfier de la deuxième course. Hein. Il était 14 mois sans courir. Donc, l'autre jour, c'est comme s'il débutait à nouveau en course.
Ouais.
Là, c'est la deuxième. Au boulot, il est bien, mais... Bon, j'en attends une bonne course, évidemment, mais... Il reste le sujet toujours de la fameuse deuxième course.
Ouais, c'est sûr, après une longue absence. Merci, en tout cas, Thierry, d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir.
Merci à vous.
Merci Thierry.
Merci. Et tu sais ce qu'on te souhaite pour ce week-end. Merci Thierry Duval d'Estaing. Quel bonheur d'avoir tiré à notre
toujours.
Micro. Allez Julien, ton favori pour ce quintet.
Alors mon favori ce sera Ready Express, mais mon coup de cœur ce sera Usage Osselin, le numéro 5.
Ready Express, c'est le 7, et Usage Osselin,
le 6,
et Usage Osselin, le numéro 5. J'ai les yeux un petit peu partout. On a Josselin avec nous au 32-16.
RMC, le tuyau du parieur.
Bonjour Josselin, je crois que tout ce qu'on vient de dire avec Thierry Duval-Destin t'a beaucoup intéressé.
Bah évidemment, parce qu'en fait il a tout dit quoi.
Merci Josselin, et bon week-end.
Il a tout dit Thierry Duval-Destin, donc... Non, mais moi je pense que il a raison de tenter le pari du Cornulier parce que ouais, il a conscience que Atlet Briargat c'est une super valeur, mais c'est en dessous des trois,
hein, cité, ouais.
En dessous. Donc et dans le Cornulier, si Briargat ça court, ce sera sur le podium et je pense que ça peut même titiller Traders quoi. C'est une vraie bonne chance. Donc,
moi, j'ai toujours adoré ce cheval, Briargat.
Ouais,
super, super cheval. Donc, c'est lui que tu vois demain dans le Bourgogne?
Ouais, parce que je pense que l'année dernière, il avait obtenu la troisième place. Même si je pense que c'est meilleur sur plus long, quand même. Mais je pense que ouais, demain, ça va être une course. Je pense qu'avec le numéro 2, bah, après, il y a tous les cracks qui sont là, mais. Je pense qu'ils vont choper la qualif demain. Et il y en a un autre que j'aurais bien mis, mais le problème c'est que ça m'interpelle un peu, c'est Dream Moko, le cheval à Westerink, parce que c'est une deuxième course, mais ça excelle sur 2100. Et je me dis que c'est pas un rêveur, s'il le court demain, c'est qu'il a une petite idée derrière la tête.
Il a dans la tête le prix de France.
Ouais, c'est ce que je pense. Mais bon, c'est ce que je pense aussi. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, si Briargat qui est dans les 5 premiers, je suis d'humeur, voilà, c'est Noël. S'il est dans les 5 premiers, tu seras avec nous la semaine prochaine et ça sera avec plaisir.
Vous êtes sérieux là?
Mais oui.
Les gars, j'allais vous proposer parce qu'en fait, ça fait deux fois que j'appelle en espace de 2 semaines. Ouais. J'ai envie de vous dire, si vous avez un auditeur, qui s'intéresse aux courses, sur les trotteurs, machin. Je suis le mec idoine, hein.
On en a quelques-uns, je te
rappelle. Voilà, mais je pense que j'essaie de me vendre, les gars. J'essaie de me vendre, hein. Mais ça marche, hein. Si dans les fins que, ouais, je suis là la semaine prochaine.
Eh ben, ça sera avec plaisir. Salut, Josselin. Régale-toi bien ce week-end.
Salut, Josselin.
On a des belles courses. Allez, on termine avec ce Grand Prix de Bourgogne. On termine le Bourgogne. Fred.
Mon favori, c'est également Ridley Express, qui n'a pas été vu en France depuis le Prix d'Amérique. Björn Goop, il est confiant pour son retour en France. Et je vais donner un outsider un peu différent de celui de Julien. Ce sera Cara Williams qui est en bonne forme cet hiver.
Cédric,
moi je vais donner le 5e, le 10 Trendy Hockey, une jument qui spécialiste de la vitesse en plus d'Alessandro Gocciadoro. Alors lui, quand on parle de forme, il est en grande forme, donc pourquoi pas pour la 5e place. Il va avoir 60 contre 1, un peu pimenter les rapports du quintet.
60 contre 1, on va pouvoir faire une deuxième fois des cadeaux de Noël. Merci Cédric, régale-toi bien cet après-midi à Vincennes.
À tout à l'heure pour le quintet en direct.
Julien Quintet en direct bien évidemment à 15h15 et horaire spécial 16h05 demain pour le quintet. Merci Fred, merci à tous.